Bonjour Anna Lasserre.
Bonjour Philippe.
Voilà, fidèle à ce rendez-vous, et les semaines passent, on est toujours dans les Pyrénées avec vous Anne. Alors aujourd'hui, vous avez retenu un extrait du voyage aux Pyrénées, un guide écrit par Hippolyte Taine, que nous avons bien sûr déjà longuement parlé à plusieurs reprises sur cette chronique. Celui de cette semaine est publié pour la première fois en 1855.
Oui, et Hippolyte Taine était bien jeune puisqu'il a 26 ans. Il n'est pas encore du tout l'écrivain qui mettra son talent au service de l'histoire et de la philosophie.
Mais alors, il exerce déjà son esprit critique et dès la première page, il se moque des pseudo-aventuriers. Il écrit « Voici un voyage aux Pyrénées, j'y suis allé ». C'est un mérite, hein. Bien des gens en ont écrit et de plus long depuis chez eux.
Et il poursuit avec ironie. J'ai des torts graves. Je n'ai gravi aucune montagne inaccessible. Je ne me suis cassé ni jambes ni bras. Je n'ai point été mangé par les ours. Je n'ai sauvé aucune jeune Anglaise emportée par le gave.
Mais il s'est beaucoup promené. Il a ouvert ses yeux et ses oreilles. Il a discuté aussi. Et cela donne un voyage aux Pyrénées illustré par de magnifiques gravures de Gustave Doré.
On peut y voir représenter les eaux chaudes et les aubonnes, par exemple.
Et c'est justement dans la vallée de Sceaux que nous partons tout de suite, grâce à votre magnifique voix. Alors on ferme les yeux, Anne, et on vous écoute.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Hippolyte Taine est envoyé dans les Pyrénées par les éditions Hachette. Il a pour mission de rédiger un guide. Il parcourt les Pyrénées centrales, qui sont alors à la mode, se rendant des eaux chaudes à Luchon. Séjournant dans la vallée d'Ossau, il s'intéresse aux façons de vivre des habitants. Le 8 août, il assiste à une fête célébrée dans le village d'Ahas, rattaché à la commune des Aubonnes en 1861, accroché sur les flancs de la montagne verte et connu pour ses bergers siffleurs. Le 8 août, écrit Hippolyte Taine, dès 9h du matin, on entendait à une demi-lieue des Aubonnes le son aigu d'un flageolet et les baigneurs se mettaient en marche pour Ahas. On y va par un chemin étroit taillé dans la montagne verte sur lequel se penchent des tiges de lavande et des bouquets de fleurs sauvages. Nous entrâmes dans une rue large de 6 pieds. C'est la grande rue. Des enfants, en bonnet écarlate, étonnés de leur magnificence, se tenaient roides sur les portes et nous regardaient avec une admiration muette. La place publique est auprès du lavoir, grande comme une petite chambre. C'est là qu'on danse. On y avait posé 2 tonneaux, sur les tonneaux 2 planches, sur les planches 2 chaises, sur les chaises 2 musiciens, le tout surmonté de 2 beaux parapluies bleus faisant parasol. Car le soleil était de plomb et il n'y avait pas un arbre. Ce tableau était fort joli et original. Sous le toit du lavoir, 2 vieilles femmes appuyées aux piliers causaient en groupe. Un flot clair sortait et ruisselait dans la rigole ardoisée. 3 petits enfants, debout, ouvraient de grands yeux curieux et immobiles. Dans le sentier, les jeunes gens s'exerçaient à jeter la barre. Au-dessus de l'esplanade, sur des pointes de roc qui faisaient gradin, les femmes regardaient la danse en costume de fête. Grand capuchon écarlate, corsage brodé, argenté, à fleurs de soie violette, châle jaune à franges pendantes, jupe noire plissée, serrée au corps, guêtres de laine blanche. Ces fortes couleurs, le rouge prodigué, les reflets de la soie sous une lumière éblouissante, mettaient la joie au cœur. Autour des 2 tonneaux tournoyait une ronde d'un mouvement souple, cadencé, sur un air monotone et bizarre, terminé par une note fausse, aiguë, d'un effet saisissant. Un jeune homme, en veste de laine, en culotte courte, conduisait la bande. Les jeunes filles allaient gravement, sans parler ni rire. Leur petite sœur, au bout de la file, essayait le pas à grand-peine. Et la rangée de capulets de pourpre ondulait lentement, comme une couronne de pivoine. De temps en temps, le chef de la bande bondissait brusquement, avec un cri sauvage. Et l'on se rappelait qu'on était dans la patrie des ours, en plein pays de montagne. Paul était là, sous son parapluie, l'air ravi, sa grande barbe frétillée. S'il eût pu, il eût suivi la danse. Avais-je raison ? Y a-t-il une chose ici qui ne soit d'accord avec le reste et dont le soleil, le climat, le sol ne rendent raison ? Ces gens sont poètes. Pour avoir inventé ces habits splendides, il faut qu'ils aient été amoureux de la lumière. Jamais le soleil du Nord n'eût inspiré cette fête de couleurs. Leur costume est en harmonie avec leur ciel. En Flandre, ils auraient l'air de saltimbanques. Ici, ils sont aussi beaux que leur pays. Vous n'apercevez plus les vilains traits, les visages brûlés, les grosses mains noueuses qui vous choquaient hier. Le soleil anime l'éclat de ses habits et dans cette splendeur dorée, toutes les laideurs disparaissent. J'ai vu des gens rire de cette musique. L'air est monotone, disent-ils, contre toutes les règles, non terminées. Ces notes sont fausses. À Paris, soit. Ici, non. Avez-vous senti cette expression originale et sauvage, comme elle convient au paysage ? Cet air n'a pu naître que dans les montagnes. Le froufrou du tambourin est comme la voix traînante du vent lorsqu'il longe les vallées étroites. Le son aigu du flageolet est comme le sifflement de la brise quand on l'écoute sur les cimes dépouillées. La note finale est un cri d'épervier qui plane. Les bruits de la montagne se reconnaissent encore, à peine transformés par le rythme de la chanson. La danse est aussi primitive, aussi naturelle, aussi convenable au pays que la musique. Ils vont, la main dans la main, tournant en rond. Quoi de plus simple ? Ainsi font les enfants qui jouent. Le pas est souple et lent. Ainsi marche le montagnard. Vous savez par expérience que pour monter, il ne faut pas aller vite et qu'ici les roides enjambées d'un citadin le jettent à terre. Ce saut, qui vous semble étrange, est une de leurs habitudes, partant un de leurs plaisirs. Pour composer une fête, ils ont choisi ce qu'ils ont trouvé d'agréable dans les habitudes de leurs yeux, de leurs oreilles et de leurs jambes. N'est-ce pas la fête la plus nationale, la plus vraie, la plus harmonieuse et partant la plus belle qu'on puisse imaginer ? Sous le Second Empire, les éditions Hachette confient au jeune Hippolyte Taine le soin de rédiger un guide aux Pyrénées, d'où le voyage accompli par Taine en 1854. Il est âgé de 26 ans et sa plume est alerte, oscillant entre l'admiration et la critique. Le passage retenu est extrait de Voyage aux Pyrénées, publié en 1863, réédité en 1989 par les éditions de la Tour, Gilles.
Et voilà comment on vivait dans la vallée d'Ossau sous le Second Empire. Curistes et touristes se présentent aux aubonnes. On organise des fêtes pour les distraire, des bals et bien sûr des concerts.
Les stations pyrénéennes sont à la mode, nous en avons déjà souvent parlé. Et la station des Aubonnes, par exemple, accueillera l'année suivante, en 1855, donc, une visiteuse de marque, l'impératrice Eugénie de Montiro. Elle y revient en 1860, en 1861, et l'on créera la promenade de l'impératrice, car elle en exprime le souhait.
Voilà, en tout cas, les voyageurs sont souvent surpris par des airs de musique interprétés par les Pyrénéens et par leur danse. Ils trouvent les airs monotone et interprétée avec de fausses notes.
George Sand, d'ailleurs, dans son roman intitulé Lavinia, évoque un bal à Saint-Sauveur. On y danse au son faux d'un violon, d'un flageolet et d'un tympanon, instrument qui tient, d'après elle, à la fois du tambourin français et de la guitare espagnole. Et cela produit, écrit-elle, un détestable charivari.
Alors Hippolyte Taine, comme bien des voyageurs, remarque le capulet qui couvre la tête des femmes. Et dans la vallée d'Ossau, on danse une danse particulière qui est déjà décrite au XVIe siècle et qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours.
Il s'agit en effet du branle d'Ossau qui se danse en formant une longue chaîne. Les danseurs se tiennent par la main et toute la difficulté, Philippe, réside dans les pas à exécuter.
On salue d'ailleurs tous les gens qui perpétuent ces traditions et qui continuent à nous faire vivre ces danses. Voilà. Des stages de danse sont d'ailleurs régulièrement organisés. Heureusement, il en reste toujours quelque chose en Vallée d'Ossau pour découvrir cette danse ou se perfectionner. La semaine prochaine, nous irons à Saint-Sauveur, dans les Hautes-Pyrénées, avec Serge Briffaut qui s'est intéressé à l'histoire des paysages.
Et oui. Lui, il regarde les Pyrénées en s'intéressant à la notion de paysage. On verra que c'est une notion qui n'a pas toujours existé.
À la semaine prochaine, donc, Anne.
À la semaine prochaine, Philippe.